Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Salut, ici Squad Lion, bienvenue au podcast de Game Radio. Et j'aimerais vous faire donc une rétrospective d'une série de survival horror qui sont extrêmement connus.
Resident Evil.
Bienvenue à Raccoon City, la ville des ratons laveurs. L'équipe Alpha est dépêchée dans le manoir Spencer et... En temps pour moi, le sujet a été traité par D. Valentine et par Nicolas. Et je vous invite donc à suivre leur excellent podcast, ici un Game Radio. Non, je tenais à vous traiter une des plus connues, celle des collines silencieuses. Qui ne se souvient pas de ce générique qui commençait par ces mots « Fear brood tends to create fear for the flesh ». La peur du sang tend à craindre pour la chair. Et où le générique débute par le Mary Mason avec son épouse qui trouve un bébé, un enfant. Cheryl qui disparaît dans le brouillard. Mary Mason qui se réveille, qui se lève. Ensuite, la pauvre Liza, Dahlia Gillespie, qui se retourne dans l'église, dans la chapelle. Une apparition de Alyssa Gillespie. Faye Kaufman, qui a envie de se mettre une balle dans la tête. Sebald Bennett, la flic, chérie. Et ensuite, Amy Mason avec sa fille qui parcourt les routes. Des flashbacks avec Alyssa Gillespie. Sybil Bennett qui dépasse Harry Mason sur la route. Des scènes de clé avec Phil Kaufman et Lisa, l'infirmière. Tout ça sur une super musique, le thème de Silent Hill, composé par Akira Yamaoka. Qui finit par un crash. Et oui, Mason a voulu éviter Alyssa Gillespie qui traversait la route. Welcome to Silent Hill. Silent Hill, un jeu composé par l'équipe en fait de Konami et qui va connaître plusieurs développeurs au cours de sa conception. Bon, excuserai déjà évidemment, je présente une rétrospective d'un des jeux les plus connus, mais vous comprendrez que ma liste ne pourra pas être exhaustive car on pourrait passer des années dessus à discuter en fait, en faisant décortiquer ce jeu d'horreur absolument magnifique. Et pour l'instant, dois vous présenter comment est née la série et par quel type de jeu. D'abord, évidemment, le premier sur PlayStation, Silent Hill. La première fois que j'ai cherché en fait ce jeu, car j'en avais entendu parler, j'ai même été trouvé sur Trouvopus, et le disque que j'ai eu en fait, c'était une démo qui était... le gars il lui vendait en fait le disque qui était proposé une démo des magazines, je ne sais pas lequel. Et dès que j'ai mis, je suis tombé sur le cul, quand j'ai vu en fait le générique, et surtout cette musique d'Akira Yamaoka, je suis tombé amoureux. Et ensuite, quand j'ai mis le disque dans la PlayStation 2, manette en main, j'ai appris que je ne touchais pas, j'avais pas en main un titre qui n'était pas comme les autres, vraiment atypique. C'est une équipe japonaise qui pourtant, donc Konami, qui pourtant a voulu imiter les styles américains. Ils ont sorti en fait un scénario totalement torturé, difficile. Il m'a fallu moi une dizaine d'années pour comprendre le scénario, les dessous et ainsi de suite. Et pourtant, malgré tout, la patte japonaise est bien plus fort. Alors, commençons déjà par le Kara Design. Ce qui est étonnant, c'est l'équipe de Sato Works, la cassette, K-C-E-T, Sato Works, équipe aussi Akira Yamaoka pour la partie musique. Il faut savoir que Akira Yamaoka n'est pas seulement ses compositeurs, mais aussi pour les premiers, il est programmeur du son, ingénieur du son, oui, donc double casquette, et le producteur Akihiro Inamura. Et déjà, donc, on a quelque chose d'assez typique. On a bien un style américain. Henry Mason, le personnage, c'est un brun, il est ce qui est plus normal. Ce n'est pas un héros de la guerre ou un personnage sorti de Resident Evil. Non, il est, c'est un gars comme vous et moi. Ce qui est aussi assez particulier, c'est que dès qu'il s'arrête de courir, il respire parce qu'il est fatigué, surtout dans le 2. C'est beaucoup plus flagrant. On le voit, les animations, on va gagner beaucoup plus en détail. C'est mis à souffler. On a vraiment quand même un personnage qui est là. On a un survival horror. Le but, ce n'est pas de tuer des zombies. D'ailleurs, les monstres ne sont pas les zombies. Mais c'est bien de survivre, ce que nous avons là. En continuant dans les personnages, puisque je suis dans les personnages de Kara Design, nous avons donc la fille, je l'ai dit, Cheryl. Le jeu commence par ce fameux crash et va chercher sa fille. Ce sera le fil d'Ariane de la série. Et tous les personnages que je vous ai désignés, vous n'aurez pas d'autres. Car ce jeu atypique ne propose pas une carrière, une personnage, une cinquantaine. Non. On a tous ces personnages-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnages, plus en fait des monstres. Passons au second épisode, le second volet de la série Silent Hill 2, Letter from Silent Haven, la lettre du paradis silencieux, un paradis céleste, paradise et le paradis terrestre. Et donc l'histoire commence par James Sutherland qui retourne à la ville de Silent Hill, et parce qu'en fait il vient de recevoir la lettre de son épouse, qui lui demande de le rencontrer dans un endroit spécial connu de deux. Le sujet un peu assez important, c'est inhabituel, c'est qu'en fait sa épouse est censée être morte il y a quelques années. Et donc le fil d'Ariane ici, c'est qu'il va rechercher quel est en fait cet endroit spécial. Il y a plusieurs lieux, on rencontrera l'hôpital, le parc, l'hôtel, il va en savoir, mais où est cet endroit spécial. Oui, nous voyons encore un scénario un des plus torturés et qui nous permet encore en fait de bien déterminer en fait l'origine de ces monstres. Je n'irai pas plus car je vais éviter dans cette série de donner trop de spoilers et je créerai plutôt un dernier thème à la fin de mon rétrospectif qui sont la reprise secret, là où je décortiquerai après tout. J'ai dit qu'en fait ce jeu commençait à s'appeler Letter from Silent Haven car il s'est décliné en version PS2 sous ce titre, mais beaucoup plus tard sur Xbox, le titre Inner Fears, les peurs intérieures, et ensuite encore plus tard sur PS2 la version Western Dreams, et enfin plus tard sur PC, alors que c'est la version Director's Cut que j'ai, ouais, enfin aussi, enfin, j'ai toutes les versions sauf la version Xbox. Et la version PS2 que je parlais, NTNC. Et nous avons un scénario complémentaire qui est Bound for Witch. C'est une version avec un autre personnage, Mewia. Sachant que la femme de James Sutherland s'appelle Mewi. Elle ressemble étrangement à son épouse décédée. À part le fait qu'elle a une couleur différente de cheveux. On voit bien en fait que c'est une brune, même si elle est blonde, comme sa femme qui est brune. Et que c'est une scène pour un scénario qui n'apporte vraiment rien, qui est un scénario parallèle qu'on rencontre à un moment donné ou comment Maria va rencontrer en fait James. Oui, effectivement, dans ce jeu, nous contrôlons en fait Maria. Mais quand on comprend bien en fait le dessous de l'histoire, la véritable histoire, nous jouons avec un personnage qui n'a pas lieu d'être, et ça nous verrons ça dans les côtés secrets. Ce que je peux dire ensuite, c'est que ces versions-là que j'ai parlé, Xbox, Interface, ou la version PS2 spéciale, Wizard's Dreams, ou sur PC, nous permet de débloquer une autre fin. On verra aussi qu'il y a la fin UFO. Quelque chose. C'est que James Sunderland, en nouvelle partie, après avoir débloqué d'ailleurs, il faut jouer au Bansorovitch, va rencontrer une pierre qui, et c'est ça qui permettra en fait de débloquer la fin UFO. Passons maintenant à Silent Hill 3. Ce troisième volet, en fait, suit le premier, tout comme en fait le quatrième volet va suivre chronologiquement le 2. Alors, il y a pour deux raisons, c'est que pour Konami, pour raison qu'on ignore, va changer les membres des développeurs, ils sont toujours évidemment japonais, de l'approche d'une équipe de Konami. Et donc, il y aura un nouveau scénariste, le 2, qui sera d'ailleurs celui du 4. Et pour ce 3, donc le troisième volet, logiquement, nous démarrons avec en fait Heather. Oui, clairement. Ça démarre en fait par un moment Heather se souvient, enfin, comme démarre dans le parc. Et ça finit, je suis obligé de vous donner le spoiler, sinon on ne pourra jamais continuer. Sommeil, c'était un cauchemar. Et une chose intéressante, c'est que quand vous rejouez le jeu en ex-Fear, puisqu'en fait on est censé avoir vu ce passage-là, on démarre directement avec la suite du jeu, on ne refait pas ce coup de cauchemar. Et d'ailleurs, encore une chose intéressante, c'est que on peut déjà, la première fois qu'on joue, on peut déjà zapper ce jeu en mourant tout simplement. Ouais. À ce sujet, si vous jouez en mode difficulté facile, vous ne pourrez pas tomber dans les trous. Heather fait une animation comme quoi elle balaye les bras, mais impossible de tomber. Il faudra demander le mode non supérieur, normal, pour pouvoir que ce soit possible. Avançons donc dans le scénario. Et nous voyons en fait une scène où Heather se réveille dans un café. Elle sort et elle est accostée par un individu louche. Douglas Catlin, qui s'avère en fait être un privé, qui voulait justement le contacter. Mais comme elle se méfie de lui, elle vient se réfugier dans le centre commercial. Attention, nous ne sommes pas dans la ville de Silent Hill tout de suite, mais dans une ville inconnue. Sur sa route, elle rencontre encore deux autres personnages. Une jeune femme avec un assez mystérieux, Claudia Wolf, et un autre, Vincent, donc on n'a pas la famille, qui a 25 ans et qui se dit en fait prêtre en quelque sorte. En fait, un drôle de personnage. Ce jeu, Silent Hill 3, c'est décliné en ce qu'on ne suit pas, en version PS2 et version PC. La majorité des différentes, c'est que pour la version PC, je me suis rendu compte d'une difficulté un peu plus accrue. Peut-être est-ce que c'est la version européenne. Ce qui m'a fait, par exemple, que j'ai débloqué, j'expliquerai plus tard comment on le fait dans la partie difficulté. Donc j'ai débloqué la version extra facile pour battre en fait tout dernier boss. Et l'autre partie par actualité de ce jeu sont en fait dans les petits secrets, les t-shirts débloqués. Heather peut débloquer plusieurs t-shirts et c'est la version de Silent Hill 2 qui est plus nantie car elle bénéficie de licences, car il y a la 13ème rue, il y a des marques et ainsi de suite, ce qui ne bénéficie pas la version PC. Dernier point, comme pour la version PC de Silent Hill 2, il est vivement recommandé de jouer avec une manette. Passons maintenant au quatrième volet. Silent Hill 4 The Womb. C'est le premier Silent Hill qui a un chiffre, 4. En fait, l'origine, c'est que ce jeu n'était pas un Silent Hill. Et c'est plus tard que la direction, Konami, se sont rendu compte qu'ils ont voulu en fait donner une chance à ce jeu. Et ils ont complètement revu la sauce, ont dû faire appel au scénariste du 2 pour faire un lien un peu artificiel qui tient relativement la route. car ils se sont rendu compte que la licence c'était très forte pour faire vendre le jeu. Ce qui se passe, c'est que donc Nonni Marron a ces choses étonnantes avant vue subjective sous la peau de Henry Tencent. Nous sommes dans une chambre, nous sommes à Saint-Antil, mais dans une chambre que nous ne pouvons pas nous échapper. Voilà, on démarre le pitch. Assez chose étonnante. Les personnages dans l'aventure que nous rencontrons principalement va être le concierge, qui nous rappelle un certain qui s'appelle en fait Sunderland. Bah oui, c'est le père de de James Sunderland, le héros du 2. Voilà un des liens en fait avec le 2. Et ensuite Eileen, sa voisine de palier, et qui justement ces personnes font un trio avec un némésis qui est un certain Walter Sullivan. Et ben ce Walter Sullivan, encore un autre lien avec le Silent 2, on le voyait dans les disséminés, on voyait que ce personnage était un criminel. Et ben voilà, nous allons le voir en fait en quoi c'est un criminel. Et nous avons aussi un petit garçon. Et voilà pour Silent Hill 4. Je trouve que c'est un jeu en fait qui va trancher radicalement avec les autres de la série, car il se trouve beaucoup plus linéaire. On va retourner dans cette chambre. J'ai parlé qu'on démarrait en vue subjective, mais quand Henry va pouvoir sortir de la chambre par un trou, il nous demande qui va être là, qui va s'ouvrir de plus en plus. Il va l'amener dans un lieu, mais la linéarité fait en sorte qu'il va toujours venir en fait à la chambre, et hop, vue subjective. La réalisation est encore bien meilleure par rapport aux autres. La gestion des inventaires est beaucoup plus claire. On passe plus par fini les pauses un peu artificielles, parce que quand on passait dans le menu, on mettait le jeu en pause. Là, non. On a la possibilité de changer à tout moment d'arme ou d'item, et ainsi de suite. Et ça, c'est un des points les plus. Les meilleurs, quoi. Et nous avons aussi, donc, ce jeu, il est sorti sur PS2 et sur PC. Et plus tard, nous avons aussi la possibilité de jouer en vendre en version collection, Molliton Collector, si je ne m'abuse, c'est son version PS2. Et c'est ça, comme le premier n'est pas sur la PS2, c'est qui relie Silent Hill 2, le 3 et ici le 4. Avant de parler du cinquième volet, qui est Homecoming, faisons un récapitulatif au fait aussi des autres déclinaisons que s'est passé. Sur Nomad, par exemple, il y a des jeux mobiles de Silent Hill. Il y a The Orphan, qui est l'orphelinat. Ou encore, il y a un second volet en préparation. C'est un jeu créé en Java et qui toujours dans le thème de Silent Hill, mais qui jouait, c'est relativement intéressant pour les phases de tir sont extrêmement basiques. C'est surtout une petite expérience assez marrante, quoi. Sur un autre mobile, il y a en préparation qui est déjà fait, c'est The Escape, qui est basé sur le Silent Hill 2. Là, c'est un jeu de tir. Et il y avait aussi sur PSP, The Experience, qui est beaucoup plus une offre promotionnelle, parce qu'il rappelle, on a la possibilité d'avoir l'interview d'Akira Imoka, qui est vu non seulement que producteur de jeu, j'ai dit, mais qui est même producteur depuis le 4. Quoique maintenant, pour le 6ème volet, si je m'abuse, il a quitté l'aventure, donc en fait, nous avons il ne fait plus partie donc, de l'équipe Konami. Mais donc, je disais qu'on a la possibilité d'avoir Akira Yamoka et aussi Chris of Guns, réalisateur du film, que j'en reprends un peu plus tard. Parce que nous avons aussi une version très peu connue, Play Novel, qui est totalement en restant japonais, il n'est pas venu dans notre hexagone. Si j'ai joué, on a la possibilité d'avoir deux fins, je vous parle tout de suite, car j'allais très vite. On développe écran par écran, car évidemment le Game Boy Advance n'a pas la capacité de la PlayStation, il faut attendre la DS pour avoir la capacité de la PlayStation. Donc nous évoluons écran par écran, et on a plutôt beaucoup plus de phases d'énigmes qui sont nouvelles, quoi. Et puis voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que à partir de il y a eu une version Silent Hill Origins, qui est écrit sur Silent Hill 0, parce qu'en fait, qui était une préquelle de premier Silent Hill. Et là, il va réalisé par, par Climax, et c'est la première fois que Konami fait appel à un groupe britannique. Climax va s'occuper donc de ses versions Silent Hill Origins, où on voit un pauvre camionneur qui débute dans cette ville. On a vraiment les origines de ce jeu. On a aussi ces versions, c'était bien marché, même si relativement difficile, avec un beaucoup plus d'ennemis. On aura la version 6 PS2 par la suite. Et ensuite, mais pour les versions de current generation, j'aime pas dire nouvelle génération parce que c'est la génération actuelle maintenant. Nous avons Homecoming qui a eu un développement chaotique car le premier groupe développeur britannique, je ne sais pas qui c'était, a été remplacé par un autre, Double Helix. Malheureusement, ce jeu n'est plus vraiment un survival horror, mais plutôt un jeu d'action. Et c'est peut-être aussi qui va expliquer que pour la suite, le Silent Hill qui est en préparation, Downpour, il sera réalisé non par Vatra, une autre groupe britannique. Alors que nous avons, par Climax, celui qui a réalisé donc la préquelle, Silent Hill Origins, nous avons un très bon jeu, Shattered Memories, qui est en fait un remake du premier, mais un remake avec une relecture, donc nouveau scénariste. Nous jouons bien Derry Mason, mais qui va partir dans un flashback, dans ses souvenirs. Derry Mason va se confier en fait à un psychanalyste, et ce jeu vraiment atypique, je n'ai pas joué, mais je sais que j'ai vu. Il est assez bien, qui est originalement joué, enfin, décliné sur la version Wii, va bien utiliser la communauté de Nunchuk assez intelligemment, mais les joueurs de la PS2 ne sont pas. Pourront aussi y jouer, évidemment, avec le bon paddle. Et ça, c'est intéressant, car ce groupe Climax, ce groupe britannique, a quand même fait a rendu honneur en fait, à la série. Voilà, nous avons fait une vite rétrospective sur les supports des jeux. Dans le prochain podcast, s'il y aura, nous ferons une autopsie plus approfondie du jeu, et là, sans retenue, je décortirai en fait les tenants et aboutissants, en fait ceux qui cachent l'âme de ce jeu magnifique. Nous traiterons donc en fait du gameplay, de l'ambiance, des différents types de jeux, les énigmes proprement dit, mais aussi les symboles, les religions, les secrets et en fin de compte en fait, l'origine du jeu. Quels sont les secrets des collines silencieuses. Salut!
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.